RFI, toute l'actualité, Florent Guignard.
L'expulsion ou la prison, c'est le choix laissé aux migrants par le gouvernement israélien qui vient de lancer un vaste programme contre l'immigration illégale. Près de 40 000 personnes sans papier sont concernées. Bonjour Denis Charby.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. L'expulsion ou la prison pour une durée indéterminée, est-ce qu'il y a un précédent de ce type dans l'histoire israélienne? Et puis constitutionnellement, est-ce que c'est légal?
Alors, commençons par le plan constitutionnel. Il y a deux ans environ, le gouvernement et la Knesset avaient voté une loi pour permettre justement la détention sans durée limitée, et la Cour suprême, qui avait été saisie du caractère anticonstitutionnel de la loi, avait renvoyé le texte au Parlement. Du coup, il a été amendé, il a été aménagé, et là on peut imaginer que des recours vont avoir lieu dans les jours ou les semaines qui viennent pour décider si on peut ainsi proposer cette option entre l'expulsion ou la prison à durée indéterminée. Je pense que juridiquement parlant, ça ne passera pas. Je pense également que dans l'opinion publique, il y aura des protestations par rapport à ce type de mesures. Mais il est évident que là, on est devant quelque chose, comme vous l'avez souligné, qui est sans précédent dans l'histoire politique d'Israël.
Ces recours, ils peuvent être formulés par l'opposition politique à Benjamin Netanyahou ou alors également par les associations de défense des migrants. On a entendu un de leurs représentants tout à l'heure dans le journal.
Alors, le droit de saisine est ouvert tant aux partis politiques qu'aux associations émanant de la société civile. En général, il est plutôt de règle que ce soit les associations qui le fassent, dans la mesure où les partis politiques peuvent utiliser le Parlement pour exprimer leurs protestations. Comme c'est un sujet qui, je dirais, sur le plan de l'opinion publique, les opinions sont extrêmement partagées, je pense que ce sera plutôt le fait de ces associations de protester contre la mesure qui vient d'être prise. Alors, le gouvernement a essayer par exemple d'exclure les femmes, les enfants, les personnes qui sont malades, etc. Donc de limiter les dégâts, mais il n'empêche qu'on n'a pas de réponse, comment dirais-je, de la part du gouvernement qui laisse entendre une autre voie de salut que celle du recours à la Cour suprême.
Alors les chiffres qui circulent, c'est à peu près 38 000, 40 000 personnes, en majorité des Érythréens, des Soudanais. Qui sont-ils ces migrants sans papier? Quand sont-ils arrivés en Israël?
Alors généralement ce sont des personnes qui sont arrivées il y a plus de 3 ou 4 ans, puisque depuis Israël a érigé un mur à sa frontière avec l'Égypte. Or généralement c'est par l'Égypte qu'ils transitaient. Donc de ce point de vue-là, on ne parle pas de réfugiés arrivés ces 18 derniers mois, mais établis depuis bien plus longtemps.
Ça c'était et avant la construction de la barrière, de la clôture électrique construite par Israël à sa frontière avec l'Égypte.
Exactement. Oui, c'est ça qui est incontestablement, c'est ce que d'ailleurs les organisations disent souvent, le problème n'est plus un problème immédiat, imminent, il n'y a pas 5 000, 10 000, 50 000 réfugiés qui sont aux portes d'Israël pour essayer d'y rentrer, puisqu'aujourd'hui l'accès y est beaucoup plus difficile, et donc il s'agit de résoudre un problème qui s'est posé donc avant l'érection de cette barrière électrique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point avancé par les autorités, c'est que on n'a pas le droit, effectivement, on est obligé d'accorder aux réfugiés un statut s'il vient directement du pays qu'il a, dans lequel sa vie est en danger. Or, comme il transite par l'Égypte, Israël estime que là, c'est déjà autre chose, c'est-à-dire que s'ils arrivent en Égypte, bien, c'est aux Égyptiens de prendre en considération leur requête, leur définition comme réfugiés, et ce n'est pas, et donc à partir du moment où ils viennent d'Égypte en Israël, eh bien ce ne sont plus des réfugiés mais des migrants économiques qui cherchent un travail, etc. Et là du coup Israël devrait avoir, estime-t-il, les mains libres.
La raison principale invoquée par le gouvernement israélien pour lancer ce programme, pourquoi expulser autant de personnes, autant de sans-papiers?
Alors la raison qui est invoquée en général, alors je dirais me paraissent être des questions, je dirais, électorales, c'est-à-dire qu'il y a une opinion qui soutient le gouvernement, les partis de la coalition, et qui estime qu'un trop grand nombre de migrants et de réfugiés met en cause l'équilibre démographique, alors qu'il ne s'agit absolument pas de leur accorder une citoyenneté. Donc, de ce point de vue-là, politiquement, les réfugiés n'ont strictement aucun poids, et mettent en avant la compétition économique, la présence de réfugiés conduit des petites entreprises à aller à leur donner des emplois mal rémunérés, et donc du coup de pénaliser des Israéliens juifs ou arabes qui travaillent dans les mêmes secteurs, mais dont les conditions de salaire, dont les droits sociaux sont beaucoup plus importants, et donc du coup se retrouvent au chômage. Donc voilà ce qu'on avance, alors même que la santé de l'économie israélienne peut tout à fait supporter la présence de ces réfugiés. Donc je dirais, c'est dans un climat préélectoral qui est le nôtre aujourd'hui, il y a une sorte de compétition, et on le voit d'ailleurs pas uniquement par cette prise de décision, mais également dans toute la législation récente prise par la Knesset, une sorte de fuite en avant à qui sera le plus, on va dire, centraliste, nationaliste, voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la mesure qui vient d'être prise.
Vous disiez tout à l'heure que la société israélienne était divisée sur cette question. Il y a du racisme en Israël. On pense aussi au sort des falachas, les juifs éthiopiens accueillis en Israël, mais considérés comme des citoyens de seconde zone.
Alors, il y a effectivement, comme dans toute société, effectivement des préjugés plus négatifs en général. Quand ils sont positifs, on les considère plus comme des préjugés à l'encontre de minorités, à l'encontre de secteurs de la population israélienne. De manière générale, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un racisme ni institutionnalisé, ni diffusé, ne serait-ce que du fait de l'histoire d'Israël et de l'histoire du peuple juif, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce qui joue beaucoup, qui compense peut-être l'absence de ce racisme-là, c'est le fantasme d'une invasion, c'est le fantasme de trop d'immigrants qui feraient porter le poids de la gestion de leurs problèmes de santé, de logement, etc. Par les Israéliens, sans contrepartie et sans tenir compte du fait que ces situations-là, on en a eu. On avait par exemple au début des années 2000 beaucoup de travailleurs immigrants, enfin, donc beaucoup de réfugiés de Côte d'Ivoire et qui sont revenus une fois que la situation politique s'est stabilisée en Côte d'Ivoire. Donc, et là, on joue de manière, je dirais, volontaire sur la confusion entre un réfugié et un migrant économique. Ce n'est pas la même chose. Mais voilà, on gonfle les statistiques, et surtout ce qui est assez navrant cette fois-ci, c'est que, après tout, voilà, ce n'est pas une vague d'immigrants, une vague de réfugiés qui est aux portes d'Israël aujourd'hui. Mais il s'agit de gérer une situation qui est déjà là, et donc ça ne...
Avec des gens établis dans le pays. Merci beaucoup Denis Charby pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël.